On va commencer Bezrat Hashem, la Maseret Baba Kama. D'accord ? La Maseret Baba Kama fait partie de trois Maseret, trois traités de Mishnah qui s'appellent Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Chacune de ces trois Maseret, donc Maseret c'est un traité, chacune de ces trois Maseret contient 10 chapitres. Et à la base, en vérité au début, c'était pas trois Maseret différents, c'était une seule longue Maseret de 30 chapitres. Il y a plusieurs implications dans ça par rapport à la halakha, parce que des fois il y a des questions qu'on peut poser d'une maserhet à une autre, et de là la Gemara arrive à la conclusion qu'en vérité, Kula Chada Masertaï, que tout Nézikin, ça veut dire les trois maserhet, forment une seule maserhet, un seul traité, un seul long traité de 30 chapitres. Mais après, par la suite, ça a été séparé en trois maserhet, qu'on va appeler Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Donc Baba en hébreu, c'est une porte. D'accord, donc on a la porte, la première porte, Baba Kama. Kama en araméen, c'est-à-dire première. Baba, c'est une porte. Donc Baba, la première porte, ouais. Une ouverture, une porte. Donc la première porte, Baba Metzia, c'est la porte du milieu, et Baba Batra, c'est la dernière porte. Donc c'est trois portes qu'il y a, trois sections qu'il y a, dans un long traité qui s'appelle Seder Nezikim. D'ailleurs, des fois dans la Gemara, on l'appelle Seder Nezikim, quand on veut parler de ces trois maseret. On l'appelle Seder Nezikim. D'accord ? Alors, de quoi on va parler, justement? De quoi on va parler? On va parler des dommages. D'accord. Dans la Parasha Mishpatim, la Torah nous enseigne, si vous voulez vérifier après, c'est chapitre 21 et 22 de Parasha Mishpatim. La Torah nous enseigne une règle générale. Elle nous dit qu'on a l'obligation de payer soit pour les dommages de son corps, ça veut dire que par exemple, moi j'écrase quelque chose avec mon corps, ou je casse quelque chose, ou soit pour les dommages de mon argent. C'est-à-dire si c'est mon argent ou mes biens qui ont endommagé quelque chose. Par exemple, mon taureau qui est endommagé, ma voiture qui est endommagée, c'est pas moi qui est endommagé, mais c'est mes biens. Donc dans la Parasha Mishpatim, on nous dit qu'une personne est responsable dans tous les cas. Que ce soit qu'il a endommagé soi-même, ou que ce soit que ses biens ont endommagé. Alors dans Baba Kama, j'aurais besoin souvent de vos définitions en français. Moi je les connais en hébreu, ces définitions, mais... D'accord, donc... On a l'obligation, donc on est responsable et pour les dommages, donc qu'on a fait avec notre corps, et pour les dommages qui ont été causés par nos biens. Puisque c'est, la Torah nous donne l'injonction de faire attention à nos biens. Bon. Maintenant, dans les dommages que nos biens peuvent causer, on retrouve principalement trois catégories de dommages. Il faut bien faire cette introduction avant de commencer, sinon on ne comprendra pas la première Mishnah. Donc on retrouve... C'est celui-là son café ? Ah d'accord. On retrouve trois catégories de dommages. D'accord. Shor, bor et esh. Est-ce que vous savez traduire ces mots-là? Shor, c'est quoi?
Le bœuf.
C'est le bœuf, hein, donc le taureau, comme on l'appelle, bon. Bor, c'est le puits, donc le trou. D'accord. Et esh, c'est le feu. D'accord. Donc on va expliquer comment, dans ces trois catégories-là, on va faire le tour de tous les dommages qui peuvent exister. On va commencer par le premier. Le premier, on a dit shor, c'est le taureau. D'accord ? Le taureau, le dommage du taureau, va se séparer lui aussi en trois. On va avoir trois sous-sections. Pour expliquer, c'est quoi le dommage du taureau ? On a Keren, Shen et Regel. De toute façon, on va développer tout ça en long, en large, dans les chapitres qui vont suivre. Keren, Shen et Regel. C'est quoi Keren ? Keren, c'est si le taureau a encorné, par exemple, un homme, et qu'il a tué l'homme. Ou bien, si le taureau, d'accord ? Si le taureau a cassé quelque chose. Il est venu, il a cassé quelque chose. Dans ce cas-là, ça rentre dans la catégorie de Keren. Et dans ce cas-là, on devra faire la différence si le taureau, donc shor en hébreu, c'est un taureau. Si le taureau est tam ou muad. Tam, ça veut dire si c'est un taureau que c'est la première fois que ça lui arrive, la première ou la deuxième ou la deuxième fois que ça lui arrive. D'accord? Et muad, si le taureau est prévenu. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça arrive. D'accord? Il récidive. Donc s'il récidive, il est muad, on l'appelle. C'est-à-dire qu'il a été prévenu. Dans ce cas-là, on paye le dommage complet. Imaginez-vous le taureau, d'accord, il marche dans la rue, il casse quelque chose. Il marche dans la rue, il voit quelque chose, il casse. Il voit quelqu'un d'autre, il casse, il fait un dommage. Si c'est la première fois que ça lui arrive, dans ce cas-là, on paye combien du dommage? 50%. Mais si ça fait déjà deux ou trois fois que ça arrive, on verra dans la suite. Dans ce cas-là, il est considéré shor muad, ça veut dire un taureau qui récidive, un taureau qui a été muad. Muad en hébreu, ça veut dire qui a été prévenu. Et dans ce cas-là, il paye 100% du dommage. Donc ça, c'est pour Keren. Donc je rappelle, on a trois catégories. Première catégorie, c'est le taureau. Deuxième catégorie de dommages, c'est le puits. Troisième catégorie, c'est le feu. Dans la première catégorie même, on va trouver comment il y a encore trois catégories. Dans le taureau, on va retrouver trois catégories. Première catégorie, c'est le taureau qui est en corne, le taureau qui est en dommage. Deuxième catégorie, c'est quoi? C'est chêne et régel. Chêne en hébreu, c'est quoi? La dent. Et régel, c'est quoi? C'est le pied. Alors, c'est quoi ces deux catégories-là, la dent et le pied? On va commencer par la dent. C'est quoi la dent? La dent, c'est si le taureau a mangé quelque chose. Il a mangé quelque chose, donc ça c'est la dent. Et le pied, c'est si le taureau a écrasé quelque chose. Alors, c'est quoi la différence entre les trois catégories? L'Agmara passe longtemps à expliquer c'est quoi la différence entre les trois. Mais je vais vous dire en bref ce que l'Agmara explique. L'Agmara dit la chose suivante. Elle dit que dans Keren, quand on parle de Keren, après on va démarrer la Mishnah. Dans Keren, c'est-à-dire dans la première catégorie du dommage du taureau, c'est quoi Keren? Keren, dans le cas de Keren, c'est que le taureau veut encorner. C'est-à-dire que le taureau est là pour encorner, il est là pour casser. Ça c'est Keren. On a des cas dans lesquels on sait que le taureau il est là pour casser, il veut casser. Ni il en profite, d'accord? Et ni c'est fréquent. Il a envie de casser quelque chose. Ça c'est Keren. D'accord? Donc Keren en général, voilà, comme je vous dis, c'est comme quand par exemple, vous voyez un taureau qui voit un enfant passer, il lui décolle une droite. Pourquoi il décolle une droite? Il a pas mangé l'enfant, il a rien fait. Ça lui sert à rien. Ça s'appelle Keren. Keren, ça veut dire c'est quand l'intention du taureau était clairement d'endommager. Chêne, c'est quoi? Chêne, c'est la dent. C'est quand le taureau est là pour manger, c'est-à-dire qu'il a envie de profiter de quelque chose. Il est en train de profiter. Donc l'exemple qu'on a donné, c'est la dent, c'est quand il a mangé quelque chose. Mais est-ce que vous avez un autre exemple d'un taureau qui est là pour profiter de quelque chose? Il veut profiter de quelque chose et il le casse. Est-ce que vous avez un autre exemple?
Il veut profiter de quelque chose.
Oui. Il veut profiter de quelque chose et en le profitant, il le casse.
L'étalage d'un fruitier, par exemple.
Alors, oui, par exemple. Explique, oui. Alors, il faut bien comprendre, avant que tu répondes à la question, il faut bien comprendre que dans la Mishnah ici, on va développer, comme dans les 39 travaux de Shabbat, on a le Hav, on a la Toulda. Ça veut dire on a le cas type que la Torah a parlé. Et après, on a les dérivés, c'est-à-dire les cas qui ressemblent au cas que la Torah a parlé. Donc la Torah a parlé que de trois cas. La Torah a parlé du taureau qui a en corne, d'accord, c'est-à-dire qu'il a pas endommagé, de la dent, c'est-à-dire du taureau qui a mangé, et du pied, d'accord, du taureau qui a écrasé. Bon, mais ça c'est les cas types. Maintenant, après, on a des cas dérivés. Donc, on va prendre par exemple le cas du taureau, d'accord, le cas du taureau qui a encorné. La Torah, dans la Parasha Mishpatim, si vous allez ouvrir la Parasha Mishpatim, la Torah parle uniquement d'un cas dans lequel le taureau a encorné. Encorné, ça veut dire qu'il a donné, il a encorné. Maintenant, quel dérivé on peut avoir de encorné? Donc, encorné, on a dit, c'est quoi encorné? Encorné, c'est-à-dire que le taureau est là pour endommager. Donc, encorné, normalement, il le fait avec ses pieds. D'accord?
Non, encorné, c'est avec ses cornes.
Avec ses cornes, pardon, oui. Quel dérivé on peut avoir de encorné?
Oui, il a écrasé.
Il a écrasé, très bien. Quoi encore?
Piétiné.
Quel membre il peut utiliser le taureau pour endommager?
Tout son corps, buste.
Hein?
Tout son corps, sa tête.
Sa tête. Quoi encore? Peut mordre. D'accord? Peut mordre. Donc, tout ça, c'est les dérivés de Keren. Ce qu'on expliquera dans la Mishnah, c'est les dérivés de Keren.
Mort,
Keren,
manger,
Keren, ça veut dire encorné, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour profiter, il n'est même pas là pour manger, ni pour se faire un kiff, rien du tout, il est là pour casser.
Pour utiliser sa force.
Il veut utiliser sa force, il a besoin de se défouler.
Alors,
ça c'est Keren.
Le pied, alors.
D'accord. Attends,
le pied,
on va y arriver. Ça c'est Keren. Keren, c'est il est là pour encorner, avec toutes les dérivés qui peuvent exister. Chêne, c'est quoi? On a expliqué. C'est quand il est là pour kiffer. Donc il est là pour manger, par exemple. Quel dérivé on peut avoir? Alors la Gemara donne un exemple. Elle dit par exemple, s'il y a un taureau qui se gratte contre un mur, d'accord, et il fait tomber le mur.
Oui, c'est possible.
C'est possible. Ah, un taureau, c'est... Donc là, il est en train de kiffer.
Ouais,
d'accord.
Il est en train de kiffer.
Bah oui. Ça rentre dans la catégorie de chêne, tout ça. Et c'est pas les mêmes halakhot, parce que... D'accord. C'est pas les mêmes halakhot si on est dans Keren ou si on est dans chêne. Un autre exemple de chêne, de là-dedans, c'est quoi? Par exemple, d'accord, s'il y a un taureau qui voit des fruits, et qui a envie de jouer, je sais pas, il a envie de jouer sur les fruits, il a envie de faire un kiff comme ça, de marcher sur les fruits. Maintenant, il fait pas parce qu'il a envie d'écraser, il fait pas parce qu'il a envie de casser, il fait comme un enfant, il aurait joué dans une piscine de boules. Il a envie de se faire un kiff. Donc il s'est fait un kiff. Ça rentre dans quelle catégorie? Ça rentre dans la catégorie de...
La chaîne.
Tu
viens de nous le dire.
Chaîne, c'est... Attends, mais je vais voir si on écoute.
Ouais, ouais.
C'est quoi la troisième catégorie du dommage du taureau? C'est, on a dit, c'est régel. C'est quoi régel? Régel en hébreu, ça veut dire quoi?
Le pied,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taureau a écrasé quelque chose. Yaakov a posé la question, il a dit oui, mais a priori... C'est quoi la différence avec le premier, quand tu dis que le taureau a encorné? D'accord? Yaakov a posé une question. La différence est très simple. La différence, c'est que dans le cas de Keren, le but du taureau est d'encorner. Et que c'est pas fréquent, normalement.
C'est pas volontaire.
D'accord? Non, c'est peut-être volontaire. Mais que c'est, premièrement, c'est pas fréquent. Et deuxièmement, le but du taureau est d'encorner. Alors que dans le cas de Régel, Régel, c'est-à-dire quoi Régel? C'est-à-dire que le taureau n'était pas là pour encorner, le taureau était là en train de marcher. Et en marchant, il a écrasé quelque chose. Parce que vous savez, un taureau, c'est gros. D'accord? Et donc là, le propriétaire a beaucoup plus de responsabilités. Vous comprenez, si un jour le taureau il vient, il encorne, il voit un enfant passer, il encorne, là le propriétaire du taureau peut dire, écoute, non, le propriétaire du taureau peut dire, c'est vrai que je vais faire attention la prochaine fois, mais je savais pas que mon taureau avait un faible pour les enfants, qu'est-ce que je dis, je savais pas. Mais par contre, le gars il est en train de marcher avec son taureau il dévie un petit peu de quelques centimètres et il écrase un champ à droite et à gauche, on dit, écoute, c'est pas quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc ça rentre dans la catégorie de régel, ça veut dire c'est des choses qu'on piétine avec nos pieds. Piétiner, c'est quoi piétiner? C'est des choses fréquentes, c'est des choses qu'on fait pas attention. Donc ça c'est dans la catégorie de régel. Bon, et enfin, je finis avec ça, l'introduction. On a appris les deux autres catégories, rappelez-vous. Première catégorie c'était le taureau. Donc dans le taureau, on a eu trois sous-catégories. Et les deux autres catégories, on a dit c'est...
Le bord,
le puits, c'est quoi le puits? Ça veut dire quoi?
Un taureau qui tombe dans un trou.
Qui a dit que c'est un taureau? Donne-moi un exemple, c'est quoi le puits?
Le puits, c'est par exemple que tu fais un trou chez toi.
Ah, je fais un trou chez moi, très bien.
Chez moi. Et l'animal, il arrive et il tombe dans le trou.
Mais je n'ai pas besoin de venir chez moi. Qui, voilà. Je n'ai pas besoin de venir chez moi.
Si c'est mon taureau qui tombe chez moi,
je n'ai pas construit un rambat,
On va en parler tout ça. Domaine privé ou domaine public?
Ouais, bon, il y a les deux.
Et si c'est un voleur et tu rentres chez moi? Et tu tombes dans le trou.
T'es responsable aussi.
Hein? Qu'est-ce que dit la loi française?
T'es responsable aussi, hein, t'es responsabilité civile.
Imagine-toi que je mets une barrière électrocutée chez moi. Et qu'il y a un voleur qui veut rentrer, il s'électrocute. Est-ce que je suis responsable?
T'es responsable, non,
La loi française est que je suis responsable.
Absolument.
Et on va voir qu'est-ce qu'en pense la Torah. C'est pas simple. Bon. Donc c'est quoi bord? Bord, c'est un puits. C'est quoi un puits? C'est un piège. C'est-à-dire, c'est un piège que j'ai mis. Peu importe si moi je l'ai mis en tant que piège ou pas. Peut-être que moi je l'ai mis parce que je voulais me faire un kiff, et peu importe pourquoi, mais j'ai fait un piège. D'accord? Donc, c'est dans le cas de Mishpatim, qu'est-ce que dit la Torah? Elle dit, Kirrebor velo ichasenu, une personne qui va creuser un puits et qui ne l'a pas recouvert. Ça, c'est le cas du bord. C'est-à-dire, c'est un piège que je laisse dans la rue. Donc, dans le cas de bord, qu'est-ce qu'on peut trouver comme dérivé de bord?
Non, imagine-toi que quelqu'un, il est trop public dans la rue, on refait la chaussée.
Très bien. Alors, donnez-moi un dérivé, aucun rapport avec un puits, mais avec le même concept.
Un balcon, oui.
Voilà. Un autre exemple encore. Bord, on a dit c'est quoi bord? Bord, c'est un piège que je laisse.
C'est ça, c'est un piège.
C'est un piège.
Une piscine trop profonde.
Très bien. Tout ça rentre dans la catégorie de bord. D'accord? Bord, ça veut dire c'est quelque chose qui rentre dans la catégorie de
piège.
Ça, c'est bord. Et le troisième, on a dit c'est quoi? C'est esh. C'est le feu. C'est quoi le feu? Quelle différence entre le feu et le puits? C'est que, explique la Gemara, que dans le feu, il y a une autre force qui est mélangée. Il y a une autre force qui est associée. C'est la force du vent. D'accord? Dans le cas du trou, une fois que j'ai fait le trou, il n'y a personne qui va venir pour augmenter mon trou. C'est-à-dire le dommage que c'est moi qui ai préparé. Ça suffit à lui-même. Alors que dans le cas du feu, moi j'ai peut-être allumé un petit feu, mais avec un autre facteur, le vent par exemple, ça a augmenté la force du feu.
Alors, si tu fais un trou, il y a de l'eau qui tombe dedans.
Très bien. Alors on a, exactement, là on a le puits et le feu. Un autre exemple que la Gemara donne, qu'on verra dans la Mishnah aussi. Si par exemple, je laisse un couteau sur le toit de ma maison. Et qu'il y a un vent qui vient. Non, il tombe pas tout seul. Il y a le vent qui vient. D'accord?
C'est du feu.
Il pousse. C'est ce couteau-là et le couteau il tombe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bord? Non, c'est pas un bord, parce que moi le couteau il est en haut, il n'y a personne qui est censé être en haut. C'est mes affaires, c'est chez moi, je fais ce que je veux. D'accord? Par contre, est-ce que ça rentre dans la catégorie de Hesh? Là oui. Parce que ça fait partie de mes responsabilités de faire attention aux facteurs extérieurs.
Donc si je laisse un couteau qui n'a pas de vent et que l'enfant le prend et se coupe, ça fait partie de la catégorie du puits alors.
Ça fait partie du puits.
Ça.
Et c'est pas les mêmes halakhot, on va voir qu'il y a des halakhot qui changent.
C'est pas le bœuf.
D'accord?
Si il y a une violence, alors, est-ce que le couteau m'appartient?
La question que je me suis posée, c'est l'attraction terrestre, ça rentre dans quelle catégorie?
Elle change pas, c'est toujours du...
Est-ce que c'est du bord ou du hesh? Si, je pose quelque chose sur mon toit, mais mon toit est un peu penché, ça va tomber.
Ça change pas de direction. C'est toujours vertical, la
Donc, est-ce que c'est bord ou c'est hesh?
C'est mieux l'un ni l'autre.
Hein? Oui, mais après, le couteau, il tombe.
Alors, c'est Hesh, alors.
Et il tombe sur quelqu'un.
La différence avec le vent, c'est qu'il va dans toutes les directions. Donc, il peut être soudain, il peut être existé, ne pas exister.
Ah, c'est pour ça que je peux me poser la question. J'ai pas la réponse encore. Bon. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous avez des questions déjà avant de démarrer. C'est clair? Tout est clair?
Très très clair.
Tout est clair? C'est bon. Alors, Julien, pas de questions? Tout est clair?
Pas de questions, ça veut dire que c'est clair.
Ah, à quoi tu... D'accord, donc on a, je répète, pour que tu te rappelles rapidement. On a Keren, Shen, Regel. Et dans le Keren, on a trois catégories. C'est quoi les trois catégories? Non, excuse-moi, je me suis trompé. On a Shor, Bor et Esh. Shor, Bor, Esh. Le taureau, le puits et le feu. Et dans le taureau, on a trouvé trois catégories qui sont Keren, Shen, Regel. Keren, c'est comme encorné. Shen, c'est la dent. Et Regel, c'est le pied. D'accord? Bon. Maintenant, on démarre. Alors. Arbara, Avot, Nezikim. Donc, on a quatre. Bon, la Mishnah, je vais l'expliquer comme la vie de Shmuel dans la Gemara. D'accord? Puisque dans la Gemara, il y a une grande machloket. Comment expliquer cette Mishnah? Et c'est une machloket entre Rav et Shmuel. Il y a beaucoup d'implications à l'Afrique, mais je suis l'avis de Shmuel, puisque Maïmonide, Barthénoura et beaucoup d'autres commentateurs ont suivi l'avis de Shmuel, qui est plus simple à expliquer dans la Mishnah. Ceci dit, sachez qu'il y a un autre avis complètement différent comment expliquer la Mishnah. Mais bon, moi je suis l'avis de Shmuel maintenant. Donc Arba, Avot, Nezikim. D'accord? Il y a quatre Avot. C'est quoi un Av en hébreu?
C'est le père.
Un père. Donc quatre pères de dommages. Ça veut dire quoi quatre pères de dommages? J'ai expliqué, ça veut dire. Quatre pères. Enfin quatre pères, pas PAI. D'accord? Alors, quatre familles, c'est quatre familles, ça veut dire quatre types de dommages. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que la Torah nous a parlé des types de dommages, qu'on appelle des avot, et après on a des dérivés. Donc, arba, avot, nezikim, on a quatre catégories principales de dommages. D'accord ? Tout à l'heure j'en ai cité trois. Hein, vous vous rappelez ? C'est quoi les trois que j'ai cités ? Shor, Esh. Là, on va nous parler de quatre catégories. Alors, première catégorie, c'est quoi ? C'est Ashor. Un taureau. Taureau, il a fait quoi le taureau? D'accord? Bœuf ou taureau, peu importe. Mais il a fait quoi le taureau? Ah, Michel ne le dit pas. Il a fait quoi le taureau? Hein?
Il a fait quoi?
Il a fait Ashor. Il a fait quoi le taureau? Il a pu faire beaucoup de choses le taureau. Il peut manger, il peut faire beaucoup de choses. Oui, ça c'est un exemple de Michelin que si t'as pas la Gemara derrière. Ashor, le taureau. Oui, il a fait quoi le taureau? Alors, on va expliquer que selon la vie de Shmuel. D'accord? Non. Là, le taureau, on parle de quoi? On parle d'un taureau qui a endommagé avec ses pieds en marchant. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher, et il a endommagé avec ses pieds. Donc c'est régal apparemment. Ça c'est Ashor. Ve'abor. Bor, c'est quoi?
Le trou.
C'est le trou. C'est le puits. D'accord? Donc ça, on l'a expliqué tout à l'heure. Une personne qui fait un trou, dans lequel est tombé un taureau ou un âne. Enfin, après, on a des dérivés. D'accord? Le cas que la Torah parle, c'est, je fais un trou, il y a un taureau qui tombe. Maintenant, le dérivé, ça peut être, je fais un trou, il y a un homme qui tombe. C'est un dérivé. Donc ça c'est Vabor. Et ça c'est le bord, on expliquera plus longuement, le cas du bord, on expliquera plus longuement dans le chapitre 5 si tu veux. Chapitre 5, Mishnah 5, à vue tunisien. Alors, Vamavare, troisième catégorie c'est quoi? Amavare c'est... D'accord? C'est la dent. Ça c'est la dent. Ça c'est un cas que ça veut dire quand c'est quand le taureau a mangé dans le champ de notre. D'accord? C'est chêne. Ouais. Vaevr, c'est quoi Evr? Dans Evr on a Biour, Biour Hamet. C'est quoi, Biour? D'accord? Non, Fab Dikat. Destruction, le feu. D'accord? Faut être pertinent. Alors, VF. C'est une plaisanterie, hein?
C'est le petit cas, en fait, là.
Il faut le tech, parce que qui aime bien, charrie bien. Pardon, Julien?
J'ai dit, là-dedans, on a vu que c'était une sous-catégorie.
Non?
Non?
Ah oui, c'est une sous-catégorie de Shor, oui.
Et là, ils la mettent au même niveau que
oui. L'autre. Parce que on va expliquer que c'est une sous-catégorie, d'accord? C'est une sous-catégorie, mais c'est une sous-catégorie qui est citée dans la Torah.
D'accord.
Pertinent. Ça veut dire, encore une fois, on a trois grandes catégories. La Torah a cité, dans la première catégorie, elle a cité trois sous-catégories. C'est la Torah qui a cité. Et de ces trois sous-catégories, nous, on a créé des dérivés. D'accord? Alors, VAVR, c'est quoi VR? VR, c'est le feu. Donc, c'est, par exemple, j'allume le feu dans mon champ. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. D'accord? Et le feu va se répandre dans le champ de mon voisin. Je veux dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute du vent. D'accord? Je fais ce que je veux, je suis chez moi, j'ai le droit d'allumer le feu chez moi, non? C'est chez moi, j'ai le droit de brûler mon argent, je fais ce que je veux. Sauf qu'en brûlant ton argent, et ben après avec le vent, t'as brûlé le champ d'un autre. Donc ça c'est le EVR, c'est le feu. Donc ça c'est les quatre catégories. C'est intéressant pourquoi, bon, ça je vous dis pourquoi c'est intéressant, parce que Pourquoi il y a toute cette machloquette dans la Gemara entre Rav et Shmuel? Parce que normalement, dans la Torah, on connaissait trois catégories. Et là, la Mishnah, elle vient, elle donne quatre catégories. Et elle dit pas explicitement c'est quoi ces quatre catégories. Il y a toute une machloquette dans la Gemara entre Rav et Shmuel pour expliquer de quoi elle parle, la Mishnah. Pourquoi, où elle a trouvé quatre, alors qu'il n'y avait jamais quatre, il y a trois. Et dans le premier des trois, il y a trois sous-catégories. Où on a trouvé quatre? Donc, c'est la Gemara qui explique longuement pourquoi on est parti chercher quatre. En tout cas, j'ai expliqué comme l'avis de Shmuel maintenant. Alors. Lo haré Ashor, carré Amavé, ve lo haré Amavé, carré Ashor. Alors, notre Mishnah, je vais nous expliquer que pourquoi la Torah a eu besoin de nous citer toutes ces catégories de dommages, étant donné que toutes les façons, on doit toujours dire qu'il y a des dérivés, alors tant qu'à faire, dis-moi un dommage, et dis-moi le principe, quand tu caches, tu payes, c'est tout. Pourquoi il y a besoin de tous ces dérivés-là? Alors la Mishnah va nous apprendre que si la Torah a eu besoin de nous enseigner tous ces cas-là, c'est parce que c'est des cas qui ne se ressemblent pas. C'est des cas qui sont différents, d'accord? Qui sont différents dans leur nature. Pourquoi? Le haré à Shor, qui est haré à Mavari. Le taureau, c'est quoi Shor? On a expliqué. Shor, on a expliqué, ça veut dire le dommage qui a été causé par, rappelez-vous? Ah, c'est plus, on n'est plus dans Brachot, là. Hein. Alors, c'est plus compliqué, là. Après, ça va simplifier un petit peu. Le haré à Shor, qui est haré à Mavari. Shor, on a expliqué, c'est quoi? Shor, on a expliqué dans la Mishnah, ça veut dire le dommage qui a été causé par les pieds. Donc le dommage qui était causé par les pieds. Il dit comme ça. Il dit le haré Ashor qui haré Amavé. Un dommage qui est causé par les pieds ne peut pas ressembler au dommage qui est causé avec Amavé, ça veut dire avec la dent. Pourquoi? Quelle différence entre les deux? Quelle différence? Allez, ne regardez pas le livre. Quelle différence entre le dommage qui est causé par le pied de l'animal et le dommage qui est causé par la dent de l'animal? C'est-à-dire le dommage qui était causé par l'animal en marchant et le dommage qui était causé par l'animal alors que l'animal voulait manger. D'accord? Quelle différence entre les deux? Différence fondamentale. Je répète. Différence entre le taureau qui va être là en train de marcher et endommager apparemment dans sa course, d'accord? Et le taureau qui va manger, il a envie de manger, il va manger quelque chose. C'est quoi la différence entre les deux?
Dans le premier cas, il a envie, il a
Alors, c'est quoi le premier cas?
La dent.
Il marche. Non, marcher, non, c'est le premier que j'ai dit, il marche. Ah, la dent.
Non.
Le premier que j'avais dit, c'était la raison. Alors, dans le cas de la dent, oui, il a une volonté. Non, dans l'autre aussi, il a une volonté. Ah, dans le cas de la dent, qu'est-ce qu'on a expliqué, d'accord, c'est pour son plaisir. Alors que dans le cas du pied, c'est pas forcément pour son plaisir, il est en train de marcher.
C'est ça.
Non, c'est pas une nécessité, il est en train de marcher, et bon, il a cassé, qu'est-ce que tu veux, il a pas fait exprès. C'est pas un taureau, c'est pas précis comme un homme. Il marche, mais il fait des dégâts au passage, c'est tout, c'est comme ça.
À condition qu'on ait permis que chez un taureau, il y a un plaisir à manger, hein. C'est
autre chose. C'est sûr. Alors, en tout cas.
Oui, mais c'est l'animal, c'est un instinct, quoi.
Oui, très bien, c'est un instinct, il n'y a pas de problème.
Plaisir,
mais c'est-à-dire qu'il va en profiter. D'accord, il est là pour en profiter, il va manger, ça veut dire que le taureau va profiter de ça. On ne parle pas de profit spirituel, etc. On ne rentre pas dans la Kabbalah, on parle de pshat, là, de sens simple. Alors, donc la différence qu'il y a entre les deux, pourquoi la Torah nous a parlé de ces deux cas? La Torah nous a parlé du cas. Allez, messieurs, c'est déjà assez compliqué comme ça. Pourquoi la Torah nous a parlé de ces deux cas? Je ne sais pas qui a demandé de Mishnah, qui n'a pas demandé, on verra après le cours. Alors, donc pourquoi la Torah nous a parlé de ces deux cas? La Torah nous a parlé du taureau, et la Torah nous a parlé du taureau qui est en dommage avec ses pieds, et la Torah nous a parlé du taureau qui est en dommage avec ses dents, parce que c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même définition. Quand il est en dommage avec ses dents, d'accord, tout d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, normalement il sait se retenir, et en plus, comme on a expliqué, c'est quelque chose que l'animal va kiffer, il va profiter. Alors que dans le cas d'un taureau qui est en train de marcher, il est gros comme ça, il marche et il casse au passage, tout d'abord il n'est pas là pour kiffer. Et en plus c'est fréquent, parce qu'on sait très bien, un taureau quand il marche, il faut faire attention, il marche. Donc c'est pour ça que la Torah nous a cité ces deux cas, puisque fondamentalement ils sont différents. Quelle heure il est? Oh là là, c'est proche. Alors, vélo haré à mavré, qui haré à Shor. D'accord? Alors, ni le taureau, je vais traduire directement avec l'explication. Donc, ni le pied ressemble à la dent, et ni la dent ressemble au pied. Pourquoi? Dans les deux sens. Parce que, comment on a expliqué, il y a une différence dans les deux sens. Parce que, le pied, il y a deux choses qu'il y a dans le pied qu'il n'y a pas dans la dent, et il y a deux choses qu'il y a dans la dent qu'il n'y a pas dans le pied. On va commencer par le pied. Le pied, on a expliqué, premièrement, c'est quelque chose de fréquent. Deuxièmement, on a expliqué, l'animal ne le kiffe pas. De l'autre côté, la dent, premièrement, c'est pas fréquent, parce que normalement, l'animal, je m'arrange qu'il ait mangé avant de partir. Et deuxièmement, d'accord, donc premièrement, c'est pas fréquent. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a expliqué? Deuxièmement, l'animal va kiffer. Donc on a deux différences, d'accord? Est-ce que l'animal profite ou l'animal profite pas? Et est-ce que c'est fréquent ou c'est pas fréquent? Donc puisqu'il y a ces deux différences-là, C'est pour ça que la Torah a cité ces deux cas. Velo zevazé sheyesh bahem ruach haim. D'accord. Ah, bonne question. Très très bien. Bonne question. Velo zevazé sheyesh bahem ruach haim. Qui aré eshen bahem ruach haim. Pourquoi la Torah nous a parlé également du feu? Parce que le feu a quelque chose que ces deux n'ont pas. Pourquoi? Les deux dommages qu'on a parlé, c'est-à-dire le dommage du taureau qu'il a causé en marchant, ça va simplifier, après, vous inquiétez pas. Ou bien le dommage que le taureau a causé en mangeant. Le point commun qu'il y a entre les deux, c'est que c'est des dommages qui ont été causés par un animal, c'est-à-dire par quelqu'un qui est vivant. Hein, d'où on revient à la question de Yaakov, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est vivant. Est-ce que le feu est vivant? Le feu n'est pas vivant. D'accord? Le feu n'est pas vivant. Et j'aurais pu penser, que pourquoi la Torah me rend responsable de mon animal? Parce qu'on se dit, c'est très bien que ton animal bouge, et donc il risque de faire des dégâts, ton animal est vivant. Alors que le feu n'est pas vivant, le feu est un phénomène naturel. Donc j'aurais pu penser que je suis pas responsable sur ça. C'est pour ça que la Torah m'a dit également le cas du feu. D'accord? Velo zébazé, chez Darkan l'élèr ou l'éazik, qui arrête à bord chez Darkan l'élèr ou l'éazik. Alors, ces trois cas qu'on a cités, donc c'est quoi les trois cas qu'on a cités? D'accord? On va finir avec ça, la Mishnah. C'est quoi les trois cas qu'on a cités? Premier cas, on a dit le taureau qui est en corne en marchant. Enfin, le taureau qui marche et qui fait des dégâts. Deuxième cas, on a expliqué, c'est le taureau qui va manger. Troisième cas, c'est le feu. Le point commun qu'il y a entre ces trois cas, c'est quoi? Le point commun qu'il y a entre ces trois cas, c'est que dans ces trois cas, c'est des choses qui ont l'habitude d'endommager. C'est peut-être pas fréquent, mais c'est des choses qui ont l'habitude. On sait que c'est un dommage. On sait qu'un taureau, quand il marche, il peut casser. On sait qu'un taureau, quand il a faim, eh ben, il va manger, il va tout casser au passage, il a besoin de manger. On sait que le feu, une fois qu'il s'est lancé, il va casser. Alors que le puits, c'est pas forcément qu'il va endommager. Il faut que quelqu'un passe pour qu'il endommage. C'est pas dit qu'il va endommager. C'est pas comme le feu que c'est sûr qu'il va endommager. Il y a beaucoup moins de certitude qu'il va endommager. Atsad achave shebaem, shedarkam leazik, ushmiratan alecha, ukshayizik, krav amazik le shalem, tashlume nezeg, bemetavaret. Mais le point commun qu'il y a entre tout cela, c'est quoi? Le point commun qu'il y a entre tout cela, c'est que c'est des choses qui finalement finiront par endommager. Même le puits qu'on a expliqué, que le puits, bah finalement je n'étais pas demandé de venir passer à côté de mon puits, mais finalement le puits finira par endommager. Et si quelqu'un passe à côté, il risque de tomber. Donc le point commun, et c'est ça ce qu'on doit retenir, c'est que c'est des choses qui peuvent endommager, et que la Torah nous a donné l'obligation de les garder. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas seulement, la Torah ne te donne pas seulement l'obligation de faire attention à ton propre corps de ne pas endommager, la Torah te donne l'obligation de faire attention également à tes biens. Donc, quand on a parlé de ces biens, on a parlé, et bien, Rattachan, dans les chapitres suivants, on va décortiquer ça en long, en large, hein. Donc, on a parlé de son taureau. Là, on a parlé de son taureau qui est en corne en marchant. De son taureau qui est en dommage en mangeant. On a parlé également du feu et du puits. Et la dernière phrase de la Mishnah. Ukshayizik, quand il est endommagé. Rav amazik leshalem tashlume nezek bemetav aret. Donc, s'il est endommagé, celui qui est endommagé, doit payer Bemetava Aret. Je conclue avec ça. Bemetava Aret, c'est-à-dire dans le meilleur de sa terre. Alors j'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire comme ça. À l'époque de la Gemara, on séparait les champs en trois catégories. Il y avait Idit, Benonit et Ziburit. Il y avait trois catégories de champs. Il y avait des champs de haute qualité, des champs de moyenne qualité, c'était les champs les plus fréquents, et des champs de basse qualité. C'était par rapport au rendement. Un champ de bonne qualité, c'était un champ que, en rendement, il était très bon. Bon. Donc imaginez-vous par exemple que j'ai endommagé pour 1000 euros. J'ai endommagé pour 1000 euros, pour 10 000 euros, et que je vais devoir me servir, il n'a pas de quoi payer, le bonhomme, donc je vais devoir me servir de ses biens. Je vais aller me servir de ses biens. Le problème, c'est que cette personne-là a trois catégories de biens. Il a des biens de haute qualité, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Catégorie A, c'est les meilleurs. Et donc, si je vais me servir 10 000 euros pour 10 000 euros dans catégorie A, combien de mètres carrés je dois prendre, par exemple? Combien d'hectares je dois prendre? Je sais pas, bon. On va dire, je prends, par exemple, un hectare. Un hectare de catégorie A. Si je vais me servir de la catégorie B, je prends 2 hectares. Parce que il faut 2 hectares pour arriver à 10 000 euros. Si je vais me servir de la catégorie C, il me faut 3 hectares. Et moi, la question que je me dis, mais maintenant que je dois me servir, j'ai le choix entre les trois. Moi, celui qui s'est fait endommager, je dis, j'ai pas envie de me prendre la tête avant 3 hectares. Même si c'est 3 hectares, mais comme c'est un champ qui est de mauvaise qualité, ça va être compliqué à vendre. Je préfère prendre 1 hectare, mais c'est un bon terrain, et je sais que je vais bien le vendre. Alors, est-ce que j'ai le droit d'imposer à la personne qui m'a endommagé, de lui dire, écoute, moi je t'ai rien demandé, je n'ai pas demandé de m'endommager. Alors maintenant, c'est moi qui décide d'où je me sers. Est-ce que j'ai le droit de me servir du idit, ça veut dire de sa catégorie A, de prendre un hectare de catégorie A? Qu'est-ce qui répond la Mishnah? La Mishnah dit oui. La Mishnah dit, étant donné que c'est pas une transaction, c'est un dommage. Je t'ai rien demandé, moi je marchais dans la rue, t'es venu, tu m'as embêté, qu'est-ce que tu veux? C'est tes affaires. Donc puisque c'est tes affaires, c'est moi qui décide les clauses, c'est moi qui décide les, c'est moi qui décide comment je vais me servir. Et donc il a le droit de se servir, comme il dit ici, mais Meitav Aretz, d'accord? Mais Meitav Aretz, ça veut dire dans la meilleure partie de la terre, c'est-à-dire il a le droit de prendre un hectare de catégorie A. Même si l'autre va dire oui, mais à cause de ça, je suis pas content parce que à cause de ça, mon autre champ va devenir beaucoup plus petit. Enfin, il peut sortir les arguments qu'il veut. Il a le droit de servir Meitav Aretz de la meilleure partie de la terre d'où il veut. Donc le point commun, ce qu'il faut qu'on retienne de la Mishnah d'aujourd'hui,
il va tirer profit quand même, d'accord, de
même si, bien sûr, il retirera toujours 10 000 euros, mais il les vendra plus facilement. Mmh. Alors, ce qu'il faut retenir de la Mishnah d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout ce que tous nos biens qui peuvent endommager, sous peu importe la forme, donc ça peut être au travers du feu, c'est-à-dire au travers d'un phénomène naturel, au travers de moi j'ai fait un trou et quelqu'un qui est passé, c'est-à-dire au travers d'une circonstance, au travers de mon bien, un taureau à moi que j'ai là qui va endommager, qui va encore là, donc ça peut être la voiture d'aujourd'hui. Dans tous les cas qu'on va décortiquer Bezrat Hashem dans les 10 chapitres qui vont suivre, dans tous ces cas-là, je suis responsable, d'accord? Je suis responsable et j'ai l'obligation de payer. Je suis responsable à combien de pourcents? Ça on verra dans la suite. À 50%, à 100%, à 25%, on verra dans la suite. Mais dans tous les cas, je suis responsable au moins d'une certaine forme. Et si j'ai endommagé et que j'ai pas de quoi payer en cash, la personne qui va se servir de mes biens, de quoi il va se servir? Il va se servir du meilleur de mes biens. Je sais pas comment c'est dans la loi française.
Non.
Hein? Il faut déjà que tu sois solvable.
Bon. Alors, une fois que tu es solvable, on prend du meilleur de tes biens. D'accord? Et bien, Bezrat Hashem, on continuera après Shavuot. Vous allez voir, c'est très intéressant, Baba Kama.
Vends ton bien et tu
Je vais te dire.